Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Bonsoir à tous. Alors que les FDS, les forces démocratiques syriennes, progressent dans la ville de Raqqa, fief local du groupe État islamique, Emmanuel Macron assurait il y a quelques jours, dans un entretien accordé à 8 journaux internationaux, que la destitution de Bachar al-Assad, son départ, n'était plus un préalable à la résolution du conflit syrien. On est loin, très loin, des propos de Laurent Fabius, il y a quelques années, ministre des Affaires étrangères de François Hollande, qui tenait un discours de fermeté sur le dictateur syrien, notamment lors des sessions de négociation à Vienne.
Il y a des points de désaccord et le principal est le rôle futur de M. Bachar al-Assad. Pour nous, les choses sont claires. Il est le principal responsable du désastre syrien et donc il n'est pas question qu'il soit le futur de la Syrie.
L'abandon du départ de Bachar al-Assad comme préalable à toute négociation, un aggiornamento revendiqué en ces termes par Emmanuel Macron dans cette interview. Personne ne m'a présenté son successeur légitime, explique le chef de l'État français. Faut-il y voir dans cet aggiornamento une volte-face française? Avec quel impact sur le terrain? Pour quelles raisons? C'est notre débat de ce soir. Bienvenue. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. Frédéric Pichon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en histoire contemporaine, l'auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier, Syrie, une guerre pour rien, qui est paru aux éditions du Cerf. En face de vous, Gilles de Rossoro, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université Paris 1. Vous êtes le co-auteur de Syrie, anatomie d'une guerre civile, un ouvrage paru l'an dernier, je crois, aux éditions du CNRS. Alors, pour commencer, peut-être une question de terminologie. Gilles de Rossoro, comment est-ce que vous qualifier cette prise de parole très officielle, hein, une interview dans 8 journaux internationaux d'Emmanuel Macron? Est-ce que c'est un aggiornamento, comme il le dit, un virage à 180 degrés, une volte-face, un tournant?
Alors c'est d'abord un démenti assez formel à ses propres propos tenus pendant la campagne électorale. Donc ça, c'est peut-être la première chose sur laquelle on peut se mettre d'accord. La deuxième chose qui me paraît claire, c'est que ça n'aura aucun impact sur le terrain. Donc ça n'a pas beaucoup d'importance, en fait. Et la troisième chose, c'est que c'est une position qui est relativement incohérente et surtout pas très bien préparée. C'est-à-dire que ce qui est frappant dans les déclarations du président Macron à ce stade, c'est l'absence de détails sur la feuille de route diplomatique, sur les propositions. Donc c'est de ce point de vue-là très vide, ou peut-être qu'un jour il y aura des propositions concrètes, mais pour le moment, en tout cas, c'est surtout ça qui me frappe.
Et pourquoi vous dites incohérente, cette position?
C'est incohérent parce que quand on parle de successeur légitime, évidemment, ça n'est pas la question. La question, c'est pas qu'on présente à Emmanuel Macron ou d'ailleurs à n'importe qui le successeur légitime, c'est qu'on définisse des processus pour définir un successeur légitime. Donc, je pense pas que Hollande se soit jamais attendu en ce que lui présente son successeur légitime. Par contre, il y a des élections et c'est ça qui définit le successeur. Maintenant, si on veut dire par là qu'effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas de solution politique en Syrie, bah, disons-le, c'est simple. Oui, il n'y a pas de solution politique. Il y a une solution militaire, notamment du fait d'ailleurs de la position iranienne, russe et de celle du Hezbollah. C'est une solution militaire. Donc effectivement, les combats vont continuer. S'il n'y a pas sanctuarisation des Américains, jusqu'à ce qu'il y ait un vainqueur.
Alors, si vous dites juste, pour revenir à la question initiale, que c'est incohérent, en gros, que le candidat Macron ne tient pas les mêmes propos que le président Macron, vous dites, effectivement, c'est une volte-face, comme disent par exemple les médias syriens qui saluent cette position française?
Ah bah, ça fait très plaisir aux médias syriens, ça fait très plaisir à la Russie. Maintenant, est-ce que sur le fond, ça a une importance centrale? Est-ce que ça veut dire qu'il y aura une position française sur les sanctions par rapport à l'Ukraine? Non, pas forcément.
Alors là, on mélange plusieurs dossiers, mais on va y venir, puisque évidemment, derrière, il y a la question du positionnement avec la Russie.
Alors, si votre question, est-ce que c'est l'amorce d'une position pro-russe de la France, je ne suis pas sûr du tout.
Alors, on va y venir. Frédéric Pichon, votre analyse sur cette interview qui a été donnée par le président?
Alors, moi je ne fais pas du tout partie des gens qui avaient suivi particulièrement la campagne du candidat Macron, mais à l'inverse de ce qui vient d'être dit, moi j'avais repéré quand même deux déclarations pendant sa campagne. La première en janvier, lorsqu'il était passé à Beyrouth, où il avait, à l'école supérieure des affaires, déclaré qu'on avait peut-être commis l'erreur de vouloir faire du départ de Bachar al-Assad un préalable. Il l'avait dit pendant la campagne. Le 6 avril à l'émission politique. Il avait insisté sur un deuxième aspect qui m'a semblé très important dans cette interview, c'est la question d'un État failli. Est-ce qu'on veut un énième État failli dans la région? Il avait dit, moi, personnellement, je ne le souhaite pas. Il me semble que ces deux déclarations, ces deux idées-là sont un peu le cœur nucléaire et de la bombe aussi qu'a représenté cette déclaration.
Donc vous voyez une cohérence entre le candidat et le président, entre le prédécesseur et l'actuel président. Qu'est-ce qui se passe?
Là, il y a un clair changement de braquet, c'est clair. Je crois même, enfin, quand on voit la déception de beaucoup de gens qui avaient soutenu Emmanuel Macron, y compris des gens qui étaient très intéressés sur le dossier syrien, je pense qu'il s'agit d'un camouflet, oui. Alors, les raisons, moi, je les connais pas. On dit que le président Macron décide seul. Aurait-il eu d'un coup des conseillers plus influents que d'autres? Moi, je vois quand même, on voit largement, on peut reconnaître la patte, c'est vrai, d'Hubert Védrine, qui martèle en fait ces données-là, et de Dominique de Villepin. Je fais que constater, c'est très védrinien, effectivement, comme position. Maintenant, là où on peut effectivement se rejoindre, c'est que...
Alors, on dit aussi que finalement, c'est la ligne Jean-Yves Le Drian, et que en cela, ce qui avait déjà été amorcé après les attentats de novembre 2015 est finalement en train de continuer à évoluer dans le même sens.
Il est sûr que la question du terrorisme, de toute façon, depuis 2015, a fait évidemment les choux gras de Bachar el-Assad, qui a réussi à esquiver la question du changement politique et de la transition politique en Syrie au profit de l'impératif de la question terroriste. Mais c'est pas uniquement, c'est pas une machination de Bachar el-Assad. C'est la réalité. C'est quand même, pour le moment, Bachar el-Assad ne menace pas la France. Je dis pas que la Syrie, que les relations entre la France et la Syrie, et j'en parle dans mon dernier livre, elles ont été chaotiques. C'est pas des enfants de cœur, on est bien d'accord. Mais actuellement, et si Macron se veut non pas réaliste, réalpolitique, c'est pas ça. Mais s'il veut avoir un levier sur la question, il va prioriser.
Vous saluez ce virage, on va dire.
Non, alors je vais vous dire. Alors là, je voudrais juste faire ce.
Allez-y.
Moi, je suis chercheur, je suis expert. Je suis pas là pour saluer, distribuer des bons points ou déplorer, applaudir ou déplorer des bombardements, etc. Je me contente de constater effectivement un virage à 180 degrés qui va dans un sens effectivement tout à fait nouveau.
Gilles de Rosson, vous voulez réagir à ce qui vient d'être dit ?
Il me semble que sur la position du candidat Macron, les signaux étaient à l'époque extrêmement clairs. Quand il y a eu un nouveau bombardement chimique, Macron a été très clair, il faut bombarder, il faut...
Bon, il en a reparlé.
Je ne vois pas exactement quelle est la cohérence intellectuelle de légitimer le pouvoir de Bachar el-Assad tout en appelant à le bombarder quand il commet des bombardements chimiques. Ça ne fait pas sens, c'est justement pas cohérent intellectuellement. On ne peut pas à la fois dire il y a une ligne rouge, Bachar el-Assad bombarde la population civile et c'est pas bien, parce que spontanément, je serais plutôt d'accord avec ça. Et donc, on le bombarde s'il bouge, et en même temps dire bah, Bachar el-Assad, il peut garder le pouvoir en Syrie, il n'y a aucun problème. Donc je crois que là,
est-ce qu'il
n'y
a pas un entre-deux? Alors c'est un mot qu'on entend beaucoup, certains disent pragmatisme, réel politique. Alors est-ce que ce n'est pas là-dessus que se positionne Emmanuel Macron, Frédéric Pichon?
Je pense qu'il y a peut-être une chose qu'on peut lui reprocher, c'est d'avoir utilisé le terme de légitime. Il dit « je ne vois pas de successeur légitime ». Je crois qu'il aurait mieux valu utiliser le terme successeur crédible, mais je crois que la situation elle est quand même... Enfin, vous dites il faut bombarder, il faut faire... Mais le problème c'est qu'on est quand même dans... Enfin, je sais pas à vous que je vais l'apprendre, on a quand même des contraintes, on a d'énormes contraintes à la fois opérationnelles, budgétaires et puis quand même de droit international. On peut plus faire ce genre de choses. Et puis, il le rappelle d'ailleurs dans son interview, il semblerait que, quel que soit ce qu'on peut penser de Kadhafi, et on ne peut pas en penser que du bien,
il tire un bilan négatif.
Amené à une catastrophe.
Alors justement, sur cette question, Emmanuel Macron dit aussi qu'il veut mettre un coup d'arrêt à une forme de néoconservatisme. Alors là-dessus, Gilles de Rosson, quelle est votre analyse? Est-ce qu'effectivement, il y a à la tête de l'État des néoconservateurs en France qui ont dicté la politique étrangère?
Non, il y a eu un courant néoconservateur, effectivement, au Quai d'Orsay, entre autres. Mais je crois que la remarque est totalement décalée par rapport à la réalité. C'est plus du tout le monde dans lequel on vit, mais ça fait des années. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la présidence Obama n'a pas existé. Or, en fait, ce qu'on constate, c'est que si les Russes sont aujourd'hui investis en Syrie, c'est que les Américains les ont amenés à s'investir, qu'il y a eu des formes de, des accords informels pour que les Russes fassent tout un travail de renforcement du régime. À l'époque, Obama était très pro-iranien. Donc voilà, c'est ça qui s'est mis en place. D'ailleurs, au grand dam d'Israël, qui aujourd'hui finance l'insurrection syrienne, l'aide, l'arme, etc., pour Bachar al-Assad nous menace peut-être pas, mais enfin, il menace d'autres pays, apparemment. Et donc, ce qu'on voit très clairement, c'est que dire aujourd'hui mettre fin au néoconservatisme, ça ne fait aucun sens dans ce qu'est l'État français aujourd'hui. Personne n'a jamais dit qu'on pouvait bombarder la Syrie seule. Sauf Emmanuel Macron, et qu'on m'explique en quoi c'est une position réaliste. L'idée que des avions français allaient bombarder seuls la Syrie en cas d'attaque chimique, ça fait stratégiquement pas sens. Point. Mmh.
Voilà. C'est d'ailleurs ce qu'on n'a pas voulu faire François Hollande en 2013.
François Hollande a été roulé dans la farine par Obama, qui a changé d'avis à la dernière minute après les bombardements de Bachar sur la population civile. Il y avait une opération qui était prévue. 24 heures avant, Obama a décommandé l'opération. Et les Français ont été obligés de s'aligner, évidemment.
Frédéric Pichon.
Je suis d'accord avec vous, le terme de néoconservatisme n'est pas aussi... Je pense que c'est une des faiblesses de cette interview. Peut-être, c'est ce que j'essaie de définir dans mon livre, ce qu'on pourrait définir cette tendance qu'il y a eu au Quai d'Orsay, qui quand même, à mon avis, est restée, qu'on peut appeler néoconservatisme si on veut, ou la secte, comme le journaliste Vincent Jauvert l'a baptisé, c'est quand même une convergence de plusieurs groupes avec des bagages intellectuels assez différents sur la question iranienne. Vous avez raison, c'est l'Iran en fait. La question derrière la question de la Syrie, il y a la question de l'Iran. Il y a la question de savoir si cette puissance doit être ou peut être ou à quelles conditions elle peut être réintégrée dans une forme de concert régional en tout cas, peut-être pas mondial, et je crois qu'il y a eu sur cette position sur la Syrie, qu'on a qualifiée peut-être hâtivement de néoconservatisme, en fait beaucoup un spectre assez varié de mouvements. Alors il y avait ce que j'appelle les droits de l'hommiste, donc qui maniait pas mal la morale, c'est vrai, l'indignation. Mais il y a aussi, par exemple, les défenseurs de l'atome français, de l'arme, de la bombe française, la bombe bleu-blanc-rouge. C'est-à-dire que notre suprématie stratégique à travers l'arme nucléaire, elle peut être affaiblie par l'obtention ou l'accession de l'Iran à la bombe atomique. Donc voilà, je pense que autour du terme de néoconservatisme, on a en fait une variété de gens. Mais je crois que la question iranienne et effectivement la présidence Obama a été décisive et elle met devant un fait accompli qui est quand même que l'Iran et la Russie ont renforcé grâce aux États-Unis effectivement grâce à l'absence des États-Unis leur position en Syrie.
Alors, il y a aussi des éléments de contexte plus immédiats, c'est ce que je mentionnais dans la courte introduction. Il y a cette bataille de Raqqa, les FDS, donc les forces démocratiques syriennes qui avancent, Mossoul aussi, où on avance, donc deux fiefs du groupe État islamique qui sont pris en étau. Est-ce que ça, pour vous, Gilles de Rossoro, cette situation sur le terrain, ça peut contribuer à expliquer ce qu'est aujourd'hui en train de devenir la position française? En gros, on prépare l'après. Est-ce que ça peut être un début d'explication?
Je ferais peut-être une première remarque en disant qu'aujourd'hui, expliquer que la priorité, c'est la lutte contre l'État islamique, c'est décalé. L'État islamique est en train de disparaître, en tout cas comme organisation territoriale. Donc en faire la priorité de la politique française en Syrie et en Irak, c'est décalé, c'est 3 ans de retard. Donc là, on a un premier malaise, c'est-à-dire qu'on risque, au contraire, en disant ça, de rater ce qui est le problème aujourd'hui, qui est qu'est-ce qu'on fait des territoires kurdes qui se sont autonomisés. Et c'est vrai à la fois en Irak et c'est vrai à la fois en Syrie. Pour le moment, c'est les Américains qui sanctuarisent ces deux territoires. Donc légitimer le régime de Bachar, comme le fait Emmanuel Macron, en fait, c'est implicitement dénier toute légitimité aux autres acteurs politiques. C'est de dire bah, il n'y aura pas de représentation kurde. Et c'est pour ça que le régime de Bachar a accueilli aussi favorablement l'entretien de Macron à la presse européenne. Pourquoi? Parce que ça veut dire, clairement, aujourd'hui, Bachar a un blanc-seing.
Il est de retour au centre du jeu.
Voilà.
Il a remis en selle.
Et la seule chose qui peut bloquer aujourd'hui Bachar, c'est les bases américaines en Syrie, c'est tout.
Alors Frédéric Pichon, oui. je vous vois faire de la tête.
Sur l'enthousiasme de la presse syrienne, vous connaissiez beaucoup mieux que moi encore c'est pas des journaux, je veux dire c'est de la propagande, donc ils jouent leur atout. Moi les échos que j'ai eus plutôt c'est quand même une vous savez lors de l'élection de Trump, c'était pareil hein, ils sont restés très attentistes hein, ils attendent de voir des actes etc. Je pense pas que Bachar al-Assad ait soudainement compris que Macron allait être son sauveur. Alors, quant à la question kurde, oui, alors les Kurdes sont des acteurs majeurs de ce qui se passe dans la lutte contre l'État islamique, mais le problème des Kurdes, c'est que je pense qu'aucune puissance ne garantira leur État. Je crois que ces personnes ne va... Ils vont être les grands sacrifiés de cette lutte. Maintenant, et dernière remarque sur l'État islamique, vous dites c'est terminé. Non, je crois pas. Je crois qu'on va au-devant. D'une part, parce que l'État, on sait bien que quand un mouvement est en train de...
Et c'est pas que Raqqa et Mossoul, hein, dans la province d'Al-Anbar, Ninive, il y a aussi...
On peut s'attendre à des attentats quand même en série en Europe. Et puis, il y a l'après-État islamique aussi. Et là, il va falloir aussi être... et je pense qu'on n'en a pas fini avec cette organisation. Ou en tout cas, avec les mots qui sont à la base de cette organisation,
Si je peux peut-être rebondir là-dessus, c'est ce que je disais exactement, c'était que c'était plus une priorité stratégique. Je crois que, oui, l'État islamique va continuer, en tout cas les réseaux qui vont subsister, vont continuer à poser des bombes en Europe, ailleurs, etc. Ça va faire des morts, ça va être une nuisance probablement pour de longues années. Mais en faire la priorité stratégique de la France au Moyen-Orient aujourd'hui, c'est un contresens historique, c'est un contresens majeur. Aujourd'hui, ce qui va définir les deux guerres civiles parallèles, la guerre civile de l'Irak et la guerre civile de la Syrie, c'est la question kurde. Voilà, elle est là, la question. Et on s'aperçoit qu'en manœuvrant, en tout cas en donnant les signaux qu'il donne, aujourd'hui, le président français se met complètement à contre-pied par rapport à cette dynamique. Aujourd'hui, évidemment, on a un président américain qui est largement imprévisible, mais il a autour de lui des gens qui ont une politique clairement anti-iranienne. Mmh. Anti-iranienne et pro-israélienne. Et là, on s'aperçoit que ce qui est en train de se mettre en place, c'est une alliance informelle, mais une alliance assez forte, pour éviter que Bachar, c'est-à-dire, puisque l'armée de Bachar, évidemment, est quasi inexistante, pour que le Hezbollah et l'Iran, avec l'appui de l'aviation russe, ne reprennent pas l'ensemble de la Syrie. Donc voilà, c'est ça qui est en train de se mettre en place.
Tout à fait. Je pense que les Américains ne vont pas. Enfin, s'ils veulent empêcher cela, il faut qu'ils s'engagent massivement. Ils ne le feront pas. Ils ne pourront pas le faire. Je pense que Deir ez-Zor sera repris par les Iraniens, les Irakiens et les Syriens. Alors, je vois mal comment, à moins d'une implication énorme de Trump, qui est imprévisible, comme vous l'avez dit, mais je les vois très mal.
Il s'agit ici non pas forcément d'armées beaucoup plus sécures. C'est simplement de faire passer un message sur le fait que ces régions sont sanctuarisées. Le fait que l'aviation américaine ait déjà bombardé le régime de Bachar et encore dernièrement est descendu un avion syrien, ça prouve que les Américains, s'ils décident de sanctuariser les zones kurdes, ils peuvent le faire. C'est pas très compliqué.
Je pense pas qu'ils aient envie de le faire. Mais
alors, c'est plus complexe.
Juste une question, parce qu'il nous reste plus qu'une minute et je voulais vous faire réagir à ce que disait tout à l'heure Gilles de Ronsoro, qui disait en tout début d'émission, ce qui est sûr, c'est que ce nouveau positionnement français, alors avec tous les guillemets, ne changera rien sur le terrain. Frédéric Pichon, vous êtes d'accord avec cette analyse ?
Oui, dans la mesure où il s'agit d'une déclaration qui n'est pas une déclaration de politique étrangère. On ne sait pas les objectifs. C'est de la diplomatie, c'est-à-dire que c'est plutôt les moyens.
Certains y voient un alignement sur Moscou.
Oui, alors là aussi, je pense que traiter correctement ou accéder à certaines demandes ou comprendre certaines choses de la Russie, ça ne veut pas dire forcément faire le jeu de Moscou. Je pense que c'est une manière aussi de faire une prise de judo ensuite et de plus ferme encore dans les négociations. Je pense que c'était une déclaration qui était purement diplomatique. Je ne pense pas que ce soit de la politique étrangère. Il faut peut-être attendre de voir effectivement sur le terrain ce que ça va donner.
On verra dans quelques semaines ou dans quelques mois. C'est déjà la fin de cette émission. Merci beaucoup à vous deux. Frédéric Pichon, docteur en histoire contemporaine, auteur de Syrie, une guerre pour rien, qui est paru il y a quelques semaines, quelques mois aux éditions du CERF. Gilles de Ronsoro, professeur de sciences politiques à l'Université Paris 1, co-auteur de Syrie, anatomie d'une guerre civile aux éditions du CNRS. Merci également à Florence Pons, à Valentin Vaner. Tout de suite, c'est un nouveau journal. Nous, on se retrouve mercredi pour un nouveau débat.